Un jour dans le monde sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On revient cette semaine sur l'histoire qui a secoué le monde des réseaux sociaux, ce meurtre en direct sur Facebook Live.
Oui, et le premier acte de l'histoire s'est achevé hier avec le suicide de cet homme qui a commis un meurtre à Cleveland aux États-Unis en le diffusant en direct sur Facebook via l'outil Facebook Live. L'affaire a vivement choqué. Il pose surtout une question: comment une telle vidéo a-t-elle pu arriver sur Facebook et y rester aussi longtemps, puisque selon le déroulé des faits donné par Facebook, une première vidéo a été publiée dimanche à 11h09, très exactement, et le compte du suspect n'a été désactivé qu'à 13h22. La vidéo d'un meurtre est donc restée publique plus de 2 heures. Alors, première raison, il n'y a eu aucun signalement d'utilisateur de cette vidéo, ni pendant le direct, ni même dans l'heure et demie qui a suivi. Deuxième erreur, elle vient des modérateurs de Facebook qui n'examinent les vidéos qu'à partir d'un certain seuil de visite, seuil qui n'a donc pas été atteint. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a profité d'une conférence hier pour revenir sur le drame.
Our hearts go out to the family and friends.
Nos pensées vont à la famille et aux proches de Robert Godwin Sr. Nous avons beaucoup de travail et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher ce genre de tragédie d'arriver.
Alors cela devrait passer par la mise en place d'une deuxième couche de surveillance des vidéos qui serait assurée par une intelligence artificielle capable d'identifier des éléments problématiques dans les Facebook Live. Solution qui avait déjà été évoquée en février dernier après le suicide d'une jeune américaine en direct, mais qui devrait mettre quelques années avant d'être pleinement opérationnelle.
Aux États-Unis toujours, Julien, un pilier de l'Internet s'investit en faveur des lanceurs d'alerte.
C'est la fondation Mozilla à qui l'on doit le célèbre navigateur web Firefox. Alors il faut savoir que ce n'est pas une entreprise, mais une fondation à but non lucratif qui, d'après son manifeste, protège le choix et l'innovation sur Internet. Fin de citation. Et parmi ses actions figure le Mozilla Open Source Support, un programme de soutien financier à des projets qui se rapprochent de cette ligne éditoriale. Et cette année, la fondation a attribué 250 000 dollars, soit 70% de son enveloppe, à une plateforme qui s'appelle SecureDrop, un outil à destination des lanceurs d'alerte. Explication dans une vidéo postée par Mozilla avec Trevor Trim de la Fondation pour la Liberté de la Presse.
SecureDrop est un outil que les médias peuvent installer et utiliser pour recevoir des informations et des documents des lanceurs d'alerte de façon plus sécurisée et plus anonyme que des appels au téléphone ou des emails.
Et donc pour obtenir la confiance de la communauté de la cybersécurité, c'est un logiciel libre, donc transparent.
C'est important que ce soit un logiciel libre. Nous voulons être complètement transparents sur ce que nous faisons, ce que nous construisons et pourquoi nous le faisons.
Alors ce logiciel est notamment utilisé par le New Yorker aux États-Unis ou le Guardian en Grande-Bretagne, mais pas en France où c'est un autre outil qui s'appelle Source Sûre qui est utilisé.
Et en pleine tension, Julien, avec la Corée du Nord, une équipe de chercheurs tente de percer le secret qui entoure l'arsenal nucléaire de ce pays.
Et alors que la communauté internationale s'inquiète de la possibilité d'un nouvel essai nucléaire ordonné par Pyongyang, il est désormais possible de visiter sur Internet en 3D un complexe de tests nucléaires caché sous une montagne. C'est le site qui est soupçonné de pouvoir abriter le nouvel essai nucléaire, et la topographie a été réalisée par l'Institut d'études internationales de Monterrey en Californie. Alors on peut se demander à raison comment on peut faire la carte d'un lieu secret dans un pays presque inaccessible. Et bien tout cela est permis par les ondes sismiques, car le site sert à faire exploser des bombes de test sous la montagne depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Alors ça ne provoque aucune réaction visible à l'œil nu à la surface. En revanche, les appareils de mesure sismique captent les ondes. Il suffit donc de regarder d'où elles viennent, un petit peu à la manière d'un sonar, pour connaître la morphologie des lieux. C'est une exploration sommaire mais suffisante pour prendre conscience de ce à quoi ressemble un site d'essai nucléaire.
Et le lien pour y accéder, c'est sur franceinter.fr. Merci Julien Baldacchino.